Bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas Fatman, Svartman. Je vais pas te rebaptiser Nicolas. Nicolas Svartman à la technique. Content de le retrouver pour le reste de la semaine, pour le, et les quelques trois aujourd'hui, demain, après-demain, et puis c'est fini, hein. C'est, la saison est terminée comme ça, ça va être terminé comme ça le jeudi pour nous, parce que le 24 déjà, c'est la fête nationale. On se rappelle là. Donc, le jeudi va être la dernière émission. En première partie d'émission aujourd'hui, comment vas-tu, Nicolas?
Ça va bien, ça va bien. Et toi, Fulgence?
Ça va.
Ça va?
Oui, oui, j'aurais préféré avoir un peu de soleil aujourd'hui, mais non, Dame Nature m'a dit non, tu peux bien rêver. Hein. Tout le monde est déçu, quoi. Non, tu peux, vous pouvez bien rêver, mais c'est pas comme ça. Je vous donne pas du soleil tous les jours. Hein. Alors, en première partie d'émission, il n'y a pas de chroniqueur, il n'y a pas d'invité, mais je me suis choisi, voilà, pour vous, bien sûr, quelques différents sujets qui vont vous plaire. Voilà, ça c'est comme ça. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Philippe Dubois, qui est le chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant, qui va nous parler des veillées de danse de la fête nationale qui ont démarré d'ailleurs depuis le 17, ça finit demain. Donc c'est mieux de le recevoir aujourd'hui et nous faire le compte-rendu de ce qui s'est passé depuis le 17. Et puis bon, ça va continuer jusqu'à demain, 22 juin 2022. Alors, par quoi je vais commencer tout de suite? Là, je vais parler du... De la journée mondiale de yoga. Ah ouais, ça existe ça aussi. Nicolas qui remue sa tête là-bas, je ne sais pas s'il fait du yoga.
Non, oh, non pas je, malheureusement non.
T'es encore jeune, t'en as pas besoin pour l'instant. Nicolas, t'es encore jeune, t'en as pas besoin pour l'instant. Ouais, ouais, non, c'est des choses, quand tu, il faut en parler, c'est des choses qui concernent tout le monde, c'est une manière de... Je vais parler de zénitude, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Le yoga au service de l'humanité. Et c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel comme ça. Ça a été quelqu'un qui a suggéré ça à l'Organisation mondiale, à l'ONU, et qui est à l'origine d'ailleurs. Et puis, bon, c'est l'initiative du premier ministre indien, Narendra Modi, que l'Assemblée nationale de l'ONU a adoptée jeudi 10 décembre 2014. Cette résolution invitant à célébrer la journée du yoga et qui permet ainsi de faire connaître les bienfaits de la pratique de yoga. Il y a 177 nations qui se sont associées à cette initiative. Il y a d'autres qui disent 175, d'autres disent 177. Bon, ben, je prends le chiffre le plus haut, quoi. 177 nations se sont associées. En Inde, ça veut dire quoi? Il y a même un ministre du yoga. Il y a un ministère pour le yoga en Inde. Alors, allez-y comprendre quelque chose, quoi. Comment c'est si important dans ce pays-là. Voilà. Alors donc, il avait déjà montré l'exemple. Le ministre Narendra Modi avait déjà montré l'exemple en nommant un ministre du yoga à l'occasion d'un remaniement du gouvernement indien. Il s'agissait, selon ses dires, de relancer cette discipline ancienne. Voilà, qui a pris beaucoup d'ampleur, il faut le dire, en Occident. C'est une manière d'être zen. Et certains vont voir, c'est tellement une journée gadget, voilà. Tant il est vrai que les esprits occidentaux sont assez peu enclins à s'intéresser de cette façon à une discipline alliant le corps et l'esprit dans la recherche d'un mieux-être. C'est ça la zénitude. Il faut être zen quelque part, quelquefois ça se permet. Et le yoga, bon, c'est tout un mélange aussi avec la méditation en même temps. Ceci dit, imaginez que le ministre des Affaires étrangères du Vatican propose à l'ONU une journée mondiale de l'oraison. Bon, ça va pas arriver. Voilà. Mais l'ONU a dit oui, donc ça se fait dans le monde entier, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui... Donc je me suis dit, je peux pas faire l'émission aujourd'hui sans en parler. Il y a ce pas. Et puis aussi, on dirait que c'est la journée mondiale de l'éclipse, hein, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le 21. Ouais, aussi, oui. Je me trompe pas. Après, je vais parler de la journée nationale des peuples autochtones. Bien sûr, la pandémie avec le maudit virus Covid-19 qui a été une tragédie humaine sans précédent. Au-delà de son impact immédiat sur la santé physique, elle a également exacerbé la souffrance psychologique et les problèmes de santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété, notamment à cause des restrictions introduites d'ailleurs sur ces divers forums dans de nombreux pays. Quel pays qui n'a pas fait de confinement? Ils ont presque tous fait des confinements. quelque part. Il y a tous les pays durant ces 2 ans qu'on a vécu. Et dans cela a mis en évidence le besoin urgent d'aborder la dimension de la santé mentale de la pandémie, en plus des aspects de santé physique. Donc partout dans le monde, le yoga a été adopté pour rester en bonne santé et dynamique et pour lutter contre l'isolement social et la dépression pendant la pandémie. Et le yoga joue également un rôle important dans la prise en charge psychosociale et la réhabilitation des patients du Covid en quarantaine et en isolement. Donc il est particulièrement utile pour apaiser leur peur et leur anxiété. C'est une manière de se retrouver, de se recentrer, de retrouver une certaine zénitude, une certaine sérénité. Et comme je le dis, donc l'essence du yoga d'ailleurs, qui est l'équilibre, pas seulement l'équilibre dans le corps, mais entre l'esprit et le corps, mais aussi l'équilibre dans la relation de l'humain avec le monde. Donc il met l'accent sur les valeurs de pleine conscience, de modération, de discipline et de persévérance. Et lorsqu'il est appliqué aux communautés, aux sociétés, le yoga offre une voie vers un monde de vie durable. C'est un instrument important dans la quête collective de l'humanité. Je ne sais pas si mes collègues qui me disent au revoir font du yoga, mais c'est la journée mondiale du yoga aujourd'hui. Allez, bonne soirée à vous, chers collègues. Bon, donc je vais profiter de ça et je vais passer à un autre sujet.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, merci Nicolas. Ah, je vais parler de la réouverture du conservatoire de Westmount. Ça va se passer le 23 juin, c'est-à-dire dans 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 21. Le 23, oui, ça va. Le conseil municipal et l'administration ont le grand plaisir. Ils annoncent d'ailleurs la réouverture du conservatoire de Westmount le 23 juin 2022. Dans 2 jours, là. Aujourd'hui, c'est le 21. Donc, tout le monde a invité. Hein. La mairesse Christina Smith et les membres du conseil pour la coupe du ruban, le 23 juin à 16h. Ouais, à 16h. 23 juin, c'est après-demain, hein, à 16h. C'est avant la fête nationale. À 16h, pour ceux qui auront le temps, ceux qui seront déjà en vacances, quoi. Allez-y profiter de cette performance musique, d'une performance musicale de Matt Dupont, harpiste de talent. Oh, c'est un instrument que j'adore, l'harpe. Oh, ouais, ça me fait penser au violon, à la cora et autres. Les instruments à cordes sont pour moi des instruments qui me caressent, qui me caressent les oreilles, quoi. Comme le piano aussi, ça c'est les doigts, c'est pas à cordes, mais c'est quelque chose comme ça de ce genre, oui. Voilà, donc le jeudi 23 juin à 16h. À 16h, moi je serai déjà ici, je pourrai pas être là-bas. Donc allez-y, profitez de ce harpiste de talent, Matt Dupont, dont la musique va vous plonger d'ailleurs dans la beauté de ce joyau architectural nouvellement restauré. Des rafraîchissements seront servis entre 16h15 et 17h. Tant pis pour les retardataires. Ceux qui arrivent en retard, ils n'auront plus de quoi boire. C'est-à-dire, on dit entre 16h15 et 17h, il y aura de quoi se rafraîchir, à grignoter même d'ailleurs. Donc, quand est-ce qu'il a été construit d'ailleurs ce conservatoire? En 1927. Ouais, après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. La Première Guerre mondiale. Oui. Autant pour moi. Le conservatoire de Westmount a été soigneusement restauré afin de préserver sa beauté pour les citoyens d'aujourd'hui et demain. Donc les travaux incluent une restauration complète de l'enveloppe extérieure et puis un réaménagement de l'intérieur adapté aux valeurs esthétiques, fonctionnelles et puis architecturales du conservatoire. Fort apprécié par la population de Westmount, qui l'apprécie beaucoup, c'est un conservatoire. Je ne sais pas si chaque quartier a son conservatoire, je ne pense pas. Non, c'est pas chaque quartier, mais où le Westmount a son conservatoire. Et c'est ça qui a beaucoup apprécié la population, par la population de Westmount. Ce bijou patrimonial est demeuré fermé pour la durée des travaux considérables de planification, de conception et d'exécution. Il ne reste qu'une seule phase pour achever ce projet, soit l'aménagement du jardin. À l'époque, quand je suis arrivé ici en 2004, j'habitais NDG. C'était juste à la frontière de Westmount, je sais où c'est situé, à peu près. Oui. Donc il ne reste qu'une seule phase pour achever ce projet, c'est l'aménagement du jardin de la cour avant du conservatoire et du jardin du comte. Ça, présentement, une phase En phase de conception, l'exécution de ces travaux est prévue pour l'été 2023. Donc, c'est une autre nouvelle. Avant de passer à la prochaine pièce, à la première pièce musicale, j'aurai quelque chose à... Ou bien, on va en musique. Ouais, on va écouter la première pièce musicale et puis après, je vais attaquer d'autres sujets. J'en ai assez. Voilà, maintenant je vais parler d'une exposition qui se passe au musée Macquer, exposition au musée Macquer, le Canada d'Alexander Anderson. Ouais. Voilà, c'est une exposition qui a commencé depuis le 10 juin 2022, ça va aller jusqu'au 16 avril 2023. Oh oui, c'est art et nature, c'est un grand photographe, un voyage contemplatif au cœur de la majesté des paysages québécois et canadiens. Voilà, donc ça a débuté depuis le 16 juin, le 10 juin, ça va aller jusqu'au 16 avril 2023, le musée Bacor qui présente Agriculture, la première exposition d'envergure consacrée à Alexander Anderson, né en 1831 et mort en 1913. Oui. Il s'agit d'une invitation à voyager pour contempler les grands espaces et les scènes urbaines du 19e siècle à travers l'étonnant parcours du photographe depuis ses excursions autour de Montréal, dans les régions du Québec et jusque dans l'Ouest canadien. Voilà, c'est ça, longtemps oublié, il a été longtemps oublié. Anderson s'avère l'un des plus importants photographes de paysages au pays et au Canada, dont l'œuvre rappelle aussi les compositions pittoresques des grands maîtres Alexander Anderson. Art et nature. Il propose plus de 250 tirages originaux. Et puis aussi, il y a des reproductions de photographies, ainsi que des documents d'archives qui relatent la vie du photographe et des albums photos, bien sûr. Donc, c'est une opportunité pour le public d'aller découvrir des images percutantes, de très belles images d'ailleurs, et dont le style romantique infuse les prises de vue croquées lors de ses multiples voyages. Canotage sur les rivières des Laurentides, des camps de pêche autochtones sur la rivière Ristigouche, majesté du fjord du Saguenay, bien qu'il soit reconnu pour ses photographie de grands espaces, il y a plusieurs représentations d'ailleurs de scènes urbaines qui permettent également d'apprécier le Montréal d'autrefois, vue du Mont-Royal, bateau amarré au port et puis inondation au cœur de la ville. Là, ça date beau là, jusqu'au 16 avril. Là, voilà, là, il faut avoir le temps d'aller, on a tout le temps d'aller voir cette exposition de ce grand photographe canadien qui nous a quitté en 1913. Il est profondément romantique. Hein. Son œuvre exprime les émotions du photographe devant les beautés de la nature et puis voir ses interrogations métaphysiques et puis son attention aux détails et à la sensualité de l'environnement, qu'il soit sauvage ou urbain, il le distingue des autres photographes de son époque. Ouais, il mérite d'ailleurs cette exposition là. Comme Notman, plus tourné vers les attentes commerciales, précise Hélène Saumon, qui est commissaire de l'exposition et conservatrice sortante photographie. Anderson démontre encore une affection particulière pour l'hiver canadien. Il y a beaucoup de photos, j'ai vu de très belles photos d'ailleurs que j'ai en face de moi ici. Beaucoup de photos de la période d'hiver, oui, et qui semblent avoir nourri son inspiration tout en exigeant de lui une accommodation aux conditions difficiles de la photographie dans la neige et le froid. Donc la splendeur de ses vues hivernales d'ailleurs le distingue de ses contemporains. Lendemain de tempête, glissade à la chute, Montmorency en bâcle d'ailleurs et de glace sur le Saint-Laurent, sans oublier les merveilleux effets de givre aux chutes Niagara. Donc la correspondance du photographe citée dans l'exposition permet aussi une immersion dans le territoire et la vie de l'époque. C'est un Écossais au Canada. Arrivé au Canada, à Montréal en 1855, Anderson, originaire d'Écosse, bien sûr, grandit au sein de la petite bourgeoisie terrienne écossaise. Petit-fils du premier président de la National Bank of Scotland, fils d'un marchand prospère. Il est indépendant de fortune et fait partie d'ailleurs, dès son arrivée au pays, des privilégiés de la société canadienne. Ouais, ouais, quand on a les moyens financiers, on peut se permettre de se lancer dans l'art comme ça, sans se soucier du côté financier, quoi. C'est, voilà, c'est la famille est déjà cossue, friquée, comme on dit, assez d'argent, riche. Donc cette aisance financière offre à Anderson les assises nécessaires pour s'adonner à sa nouvelle passion, qu'est la photographie. Voilà. Alors, bien qu'il connaisse d'ailleurs déjà la photographie alors qu'il vit en Écosse, c'est à Montréal en 1857 qu'il apprend la technique auprès de William Notman, qui est né en 1826 et qui est mort en 1891. Donc en 1860, Anderson et Notman, qui partagent l'intérêt pour les arts, sont au nombre des quelques personnes influentes qui participent à une réunion mettant à la création d'art de la Association, l'Art Association of Montreal, aujourd'hui le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Waouh, ça vient de là, quoi. Sincèrement, c'est intéressant, hein, c'est son passage. Alors, ceux qui auront le temps, n'hésitez pas à aller-y au musée Macor pour aller découvrir les belles photographies, sur de belles images d'hiver, comme je l'ai dit. Il est beaucoup inspiré par l'hiver canadien. Et puis, y a un livre aussi, hein, qui en vente là-bas, la boutique du musée, Art et Nature, oui, d'Alexander Anderson, le livre. C'est vendu là-bas, c'est le premier livre consacré à Alexander Anderson, plus de 170 reproductions fidèles au tirage d'époque font voyager au gré des raisons depuis Montréal vers les régions éloignées du Québec et de l'Ouest canadien durant la seconde moitié du 19e siècle.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, on continue. J'ai encore d'autres sujets. Je vais parler un peu de littérature un peu plus tard, mais maintenant je vais m'occuper de... Je ne sais pas si je me trompe de sujet là. La journée... Ouais, c'est bien ça. La journée nationale des peuples autochtones, c'est aujourd'hui. Oui, il y a des festivités depuis ce matin. J'ai vu des images à la télé, quand je préparais l'émission d'ailleurs. C'est depuis 1996, la journée nationale des peuples autochtones est célébrée le 21 juin au Canada, lors du solstice d'été. C'est aujourd'hui. Voilà. Plusieurs activités et événements ont lieu à travers le pays pour célébrer et en apprendre davantage sur le patrimoine, les différentes cultures, l'histoire et les réalisations exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les Métis, je pense bien que ce sont ceux qui sont nés de parents autochtones et parents originaires d'Europe. C'est comme ça, les Métis, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi. Il y a un concert pour la journée mondiale des peuples autochtones qui aura lieu aujourd'hui au parc Westmount. Je viens de parler de Westmount avec son conservatoire. Aujourd'hui à 17h, qui va mettre en vedette l'auteur, compositrice, interprète Wandat Eadze. Et puis la bibliothèque publique de Westmount aussi dispose aussi d'une grande sélection d'ouvrages sur le sujet pour tous les groupes d'âge. Alors, c'est pas seulement que ça se passe dans tout Montréal. Hein. Voilà, c'est partout. Allez-y, tapez là-bas sur le web, sur Google, Journée nationale des peuples autochtones. Vous allez voir, il y a des festivités partout. Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la Journée nationale des peuples autochtones? C'est une occasion spéciale de souligner pour tous les Canadiens le patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et Métis. La Constitution canadienne reconnaît ces trois groupes comme peuples autochtones. Voilà. Bien qu'il y ait beaucoup de points communs entre ces groupes, chacun d'entre eux a son patrimoine, sa langue, ses pratiques culturelles et ses croyances spirituelles. En collaboration avec les organisations autochtones nationales, le gouvernement du Canada a choisi le 21 juin la date du solstice d'été pour célébrer la journée nationale des autochtones. D'ailleurs, j'ai écouté un discours du premier ministre canadien Trudeau, Justin Trudeau, qui parlait, qui s'adressait au public, au peuple, à toute la nation canadienne, parlait des souffrances depuis des siècles, depuis des siècles. Et que quand il parle de réconciliation, il ne parle pas seulement de réconciliation du gouvernement canadien avec les autochtones, mais de tout un chacun de nous, avec ce peuple qu'on côtoie, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très mal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'autochtones à l'époque, quand j'étais arrivé ici, des gens vraiment qui m'ont appris beaucoup sur la culture. Et quand j'étais allé faire visite là-bas à Wandat, à Wandake, je suis allé à leur hôtel, le musée, tout ça, le jeune homme qui était là, spécialiste, mais il s'est donné tellement du temps à m'expliquer l'histoire du peuple. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si on se connaissait. Non, on se connaissait pas. C'est la première fois que j'allais dans ce musée. C'est la première fois que j'ai rencontré ce jeune homme. Il a pris le temps qu'il avait pour m'expliquer l'histoire du peuple Wendake. C'était tellement intéressant. C'est je suis passé une fois, mais je suis convaincu, je suis quasiment certain que je vais repasser pour une deuxième fois. Quand j'aime quelque chose, je ne le fais pas une seule fois. Et puis l'hôtel, c'est tellement beau, la nourriture qu'on a mangée. C'est là que j'ai mangé pour la première fois du watapi, ou bien je ne sais quoi. La nourriture dans le resto, la chambre d'hôtel, tout est c'est géré par les autochtones, par les Wendat. Voilà, c'est ça. La seule personne que j'ai vue là-bas qui n'était pas autochtone, c'est un Québécois qui est marié avec une femme Wendat. Voilà, il a le droit d'y habiter dans la réserve, mais il n'a pas le droit d'acheter. Mais comme il est marié avec, mais leur fils a le droit d'acheter. Leurs enfants auront le droit d'acheter. Et c'est la seule personne que j'ai connue qui n'est pas autochtone, qui habite là, dans la réserve. Voilà, c'est lui qui m'a expliqué ça. Il dit, je peux habiter ici avec mon épouse, je peux louer, mais je n'ai pas le droit d'acheter. Si on veut acheter, tout doit être au nom de son épouse qui est autochtone, qui est Wendat. Voilà, ça écrit, je dis, waouh, quelle histoire. Donc, la journée des peuples autochtones a été annoncée en 1996, comme je l'ai dit, par le gouverneur général de l'époque. Roméo Leblanc, grâce à la proclamation désignant le 21 de chaque année comme la Journée nationale des peuples autochtones. Donc, en 1982, la Fraternité des Indiens du Canada, maintenant l'Assemblée des Premières Nations, a demandé l'établissement de la Journée nationale de la solidarité autochtone en 95. C'est comme ça, ça s'est développé tout le temps, ce qu'on arrive en 96 là-bas. Alors non. Et donc, le 21 juin 2017, le Premier ministre a fait cette déclaration annonçant son intention de renommer cette journée la Journée nationale des Autochtones. Le nom reste en même temps, le même en français. Voilà, c'est comme ça. Alors, allez-y, c'est pas fini, ça fait encore tard dans la nuit. Si vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont jamais pu assister à ces festivités, profitez-en, c'est une fois par année, c'est pas deux, trois, quatre fois. Voilà, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Je vais recevoir mon invité, Philippe Dubois, qui est chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Il va venir nous parler des veillées de danse de la fête nationale. Allez, à tout de suite. N'allez pas loin.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ouais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la deuxième partie de l'émission, la dernière des meilleures de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil, Philippe Dubois, chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Il va nous expliquer ce que c'est qu'une veillée, de danse. C'est pas une veillée, c'est des veillées de danse. Il y en a plusieurs qui ont démarré d'ailleurs depuis le 17 et qui prennent fin. Demain le 22, il va me corriger si je me trompe. Je pense pas. Bonjour Philippe Dubois.
Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes tout à fait juste, vous êtes bien informé.
Oh, oui, appelez-moi simplement Fulgence. Parfait. Mais Philippe, comment ça se passe depuis le 17? Est-ce que vous êtes satisfait?
Ben, juste les échos que j'en ai jusqu'à maintenant, je vous dirais que oui. En fait, c'est la première fois qu'on a la chance d'organiser des veillées de danse là, à l'approche de la fête nationale du Québec.
Oui.
C'est une opportunité qu'on a eue, le ministère de la Culture et des Communications nous a approché
oui.
pour piloter ce projet-là. Puis jusqu'à maintenant, ben, on a eu 16 veillées, des veillées familiales en après-midi en fin de semaine, comme oh. des veillées plus festives en soirée.
Mm-hmm.
Puis les amateurs de danse, comme les néophytes, sont vraiment au rendez-vous. Puis jusqu'à maintenant, tout ce qu'on dit, c'est que tout le monde est très souriant puis apprécie beaucoup dans plusieurs cas, c'est la découverte hein, de la danse traditionnelle, même si ça fait partie des traditions, ben, des traditions du Québec, mais des traditions mondiales. Hein. La danse traditionnelle, c'est quand même quelque chose qui est très présent à l'échelle mondiale.
Un peu partout, ben, ouais, dans tout le coin
ouais,
du monde. Oui, oui.
Ouais, mais pour beaucoup de gens, ici, on se rend compte que c'est la première fois. Donc, on a souvent des petits ateliers d'initiation ou en cours de veillée, les calleurs et les musiciens qui montrent un petit peu les pas avant d'amorcer la danse.
Oui.
Puis jusqu'à maintenant, je vous dirais, moi je fais la tournée là en ce moment. Je suis sur la route pour essayer d'aller rencontrer les gens puis puis capter des belles images aussi de ces veillées de danse-là, parce qu'on n'en a pas énormément des images actuelles de veillées de danse. Donc, j'en profite pour aller voir les gens, puis je vous dirais que c'est très, très festif. Puis côté météo, on est relativement chanceux jusqu'à maintenant.
Ah, wow, tant mieux alors. C'est ce que je me suis demandé d'ailleurs. Je me suis dit, mais comment, lui, il est chargé de projet de ces veillées. Comment il a le temps d'être en entrevue? Bon, c'est pas, vous n'êtes pas avec moi toute l'émission. je sais que Philippe est au four et au moulin en même temps.
Ouais, mais en fait, bon, au Conseil québécois du patrimoine vivant, on est une petite équipe. On a chacun nos projets séparés. On travaille beaucoup en collégialité.
Oui.
Dans ce cas-là précis, en fait, c'est que nous, on a fait un appel de projet à la fin mars, quand on a eu la confirmation que ces veillées-là allaient exister.
Oui.
Donc, on a lancé un appel pour les organisateurs de veillées de danse, parce qu'il y a des veillées de danse quand même à l'année à travers le Québec.
Oui. À l'année?
À l'année, je vous dirais, quand c'est pas la pandémie, là, bien sûr, parce que les veillées de danse, c'est pas mal la dernière activité qui a pu reprendre, là, au sortir, en tout cas dans la pause qu'on a en ce moment côté pandémie.
Oui.
Donc, je dirais, à l'automne, l'hiver, là, de septembre à avril-mai, il y a des veillées de danse dans plusieurs régions. Souvent, c'est des veillées à l'intérieur, mensuelles,
oui,
avec des callers en rotation, des musiciens en rotation. Il y en a peut-être, je vous dis ça comme ça, là, peut-être une quinzaine qui roule à l'année. Donc, nous, on a fait appel à ces organisateurs-là de veillées de danse et au grand public, en fait. On a reçu beaucoup de propositions de musiciens eux-mêmes, d'individus qui sont amateurs, porteurs de tradition, porteurs du patrimoine vivant, qui avaient une certaine connaissance de la danse traditionnelle. Des fois, des municipalités,
oui,
qui ont proposé des projets. Donc, on a réussi à organiser 25 veillées de danse, là, c'est ça, comme vous disiez, du 17 au 22.
Oui.
Des veillées pour la plupart en extérieur, parce qu'un des objectifs de ce projet-là, qui est un peu spécial, c'était de montrer la danse traditionnelle dans des lieux qui sont ouverts à tous pour que les gens puissent entrer en contact avec cette danse-là sans qu'ils aient à se rendre, par exemple, dans une salle communautaire ou dans un endroit qui est peut-être un petit peu plus reclus.
Oh, ouais.
Donc, c'est ça. Puis tous les événements là, ont toujours un certain plan B au cas où la météo
se passe. Oui, surtout que vous avez
des abris à l'intérieur.
Surtout que vous avez, dès le début de notre conversation, que la météo a été très, très, très clémente.
Ouais,
Dame Nature a fait exception.
Exact. On était chanceux. Puis quand c'était pas le cas, je pense à samedi, par exemple, là, moi, j'étais dans la région de Québec, puis il faisait pas très beau, mais en général, les gens ont toujours une scène à l'extérieur. Et je pense à la veillée à Stoneham, Tewksbury, par exemple, qui était dans une chapelle, la chapelle de la municipalité, qui est un endroit magnifique,
oui,
qui se prête très bien à ce type d'événement-là, où on reçoit en général là entre 100 et 150 danseurs à la fois qui viennent pratiquer la danse traditionnelle pendant quelques heures.
Oui. Mais si quelqu'un qui n'est pas d'ici vous demande, Philippe, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la danse traditionnelle québécoise?
La danse traditionnelle québécoise, c'est souvent considéré comme un amalgame, comme plusieurs traditions québécoises, que ce soit la musique, que ce soit la chanson.
Oui.
Donc, c'est un amalgame de danse de issu de Rille, par exemple, qui serait d'une tradition plus britannique ou irlandaise.
Oui.
Des quadrilles, donc des danses carrées, si on veut, de tradition davantage française. Donc, c'est un amalgame de tout ça. Beaucoup de gens connaissent le fameux 7 carrés.
Oui.
Le connaissent du moins, en ont entendu parler. Donc, c'est une danse qui se danse en groupe de 8, donc 4 groupes de 2 personnes,
oui,
qui effectuent des mouvements qui sont commandés par un guide qu'on appelle le caleur ou la caleuse.
Oui.
Au son de la musique, les musiciens traditionnels qui sont souvent, je dirais très souvent, un violon, un accordéon, une guitare, à ça peuvent s'ajouter la flûte. Ce soir, par exemple, dans la veillée de Laval, pas ce soir, mais demain dans la veillée à Montréal, on aura un joueur de bouzouki.
Oui.
Banjo, donc plusieurs instruments comme ça. Puis, il y a plusieurs types de danse. Des fois, c'est des danses en rangée, des danses en colonne, qu'on appelle comme la contredanse, qui est plus de tradition anglaise.
Oui.
On a des danses de groupe qui sont des grandes marches, en fait, qui peuvent être très impressionnantes parce qu'on a une centaine on peut avoir une centaine de danseurs qui dansent vraiment d'un seul et même mouvement. Donc, c'est très intéressant à voir. Puis, je vous dirais qu'il y a très, très peu de gens qui se déplacent pour aller jeter un œil, qui finissent pas par rentrer dans la danse parce que c'est, Il y a un esprit de communauté en plus avec les années qu'on vient de passer. On sent vraiment que les gens ont envie de se voir.
De resocialiser.
De resocialiser, de se toucher aussi, même,
oui,
de rien. C'est, La danse traditionnelle, bon, les sept carrés, on se tient souvent par la main.
Oui, chacun danse pas dans son petit coin caché là-bas. Là.
Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça, en fait, que la danse traditionnelle, il y a des initiatives qui ont été faites un peu pour essayer de danser à distance pendant la pandémie avec des masques, mais c'était, bon...
Ça perd sa valeur initiale.
Ça a pris un peu, mais c'était pas la vraie danse traditionnelle que les gens apprennent.
C'est un peu truqué, ouais. Là. Oui. Ouais.
Donc là, enfin, on peut reprendre ça. C'est très festif, puis mine de rien, moi, je vous avoue que ça fait pas très longtemps que je me prête à la danse traditionnelle, puis c'est extrêmement sportif. Donc ça peut être extrêmement sportif, en tout cas, si on y entre pleinement. Donc c'est vraiment une activité géniale pour rencontrer des gens. On change de partenaire souvent, donc ça nous permet de socialiser avec d'autres gens. Puis autant les gens plus âgés qui peut-être ont entendu eux-mêmes leurs parents leur parler de soirées de danse qu'on a moins vu maintenant dans les familles, mais qui ressortent à l'occasion, que des gens qui vont danser, comme je vous disais tantôt, qui suivent les veillées, qui parcourent beaucoup, beaucoup de kilomètres pour aller d'une veillée à l'autre.
Oui.
Puis même les familles, ben, on voit que les enfants ont beaucoup, beaucoup de plaisir à faire des refoulades, par exemple, puis vous savez, quand tout le monde se prend par la main, puis entre au centre d'un cercle en criant un peu, ben ça, les enfants adorent ça, puis les adultes aussi. Donc,
voilà, parce que je m'apprêtais à vous demander, Philippe, la nouvelle génération, les jeunes de maintenant, ouais, est-ce qu'ils se disent « Oh, bof, non, moi, ça me dit rien, ça. »
Ben, peut-être qu'ils se disent « Ça me dit rien », mais je vous dirais que ceux qui tentent l'expérience en redemandent en général.
Oui.
Parce que c'est quelque chose de très, très social. Je pense, par exemple, aux veillées du plateau à Montréal, justement,
oui,
qui sont organisées par un organisme qui s'appelle Espace Trad, donc c'est dans le quartier Antique. C'est à la Maison de la culture d'Antique. Puis eux, ils ont une veillée demain, justement, là, au parc Antique,
oui,
demain soir. Ces veillées-là, de ce qu'on me dit, ce sont des veillées qui attirent, bon, beaucoup de gens de Montréal et des environs.
Wow.
Puis où il y a beaucoup de jeunes, justement, dans la vingtaine, par exemple, qui reviennent, qui viennent souvent en groupe. Les veillées de danse, on peut y aller en couple, on peut y aller seul, parce que c'est sûr qu'on va se trouver des partenaires.
Il y a des gens avec qui on va socialiser là-bas.
Exact. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont en groupe, particulièrement les jeunes. Puis, ce qui est intéressant, des fois, en tout cas moi, ce que je remarque du côté des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement, ils sont pas gênés de ah, je connais pas la danse, je vais pas me risquer. Non, non.
Non, c'est pas un concours de danse. On est là juste pour se défouler, voilà, avoir du plaisir, c'est tout quoi.
Exact.
C'est pas une compétition.
C'est ça, puis les calleurs le savent aussi, hein, donc ils s'organisent pour avoir des danses avec différents niveaux de complexité qui vont permettre aux danseurs très expérimentés d'y trouver leur compte, mais aux danseurs qui sont vraiment novices dans la pratique, ben de vraiment s'amuser. Hein. C'est comme n'importe quel type de danse où on crée un certain rapprochement. Je pense à la salsa ou je pense au swing.
Oui,
on se laisse
oui.
entraîner par la musique, puis il y a un moyen, il y a toujours moyen de s'amuser sans se prendre la tête. Là.
Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, c'est la veillée tissée serrée 21 oui. À Laval au parc Bernard Landry. Et il y a encore, aujourd'hui, il y a Val-David, il y a la scène de Lille, la soirée dansante en hommage à Philippe Gagnon.
Oui, à Val-David.
À Val-David. Mmh.
Oui. Et on a une veillée pour le solstice aussi, bon, c'est un peu loin peut-être de Montréal, là, à Beaumont, oui, exactement.
Oui, oui, et demain on retrouve les petites veillées trad de Saint-Ours au parc Alphonse Desjardins. Mais tout ça c'est beau quand même. Comment est-ce que, normalement, comme vous avez dit là, est-ce que les gens, les artistes surtout, ils essaient de transmettre leur art à la nouvelle génération?
Ben oui, tout ce qui est le patrimoine vivant, c'est vraiment son assise principale, c'est la transmission. Hein.
Oui, sinon ça disparaît plus tard.
Exact. Mmh. Quand on parle de patrimoine, ben des fois on confond un peu avec l'histoire, mais quand on parle de patrimoine, ça implique toujours un dynamisme, une reconstruction, une appropriation. Donc oui, le répertoire se transmet, mais il s'adapte, il évolue.
Oui.
Les danses aussi. Donc oui, c'est sûr que les musiciens, c'est leur but parce qu'ils font très souvent de l'enseignement.
Oui.
Mais je vous dirais que les artistes, les artisans traditionnels le font vraiment pour le plaisir de pratiquer ces arts-là.
Oui.
Il y a un souci de sauvegarde et de transmission, mais ça reste vraiment des arts et des pratiques qui sont très, très actuelles.
Oui.
Puis, comme je disais, qui sont en constante évolution. Donc, c'est pratiqué comme n'importe quel autre type d'art et de musique, de danse.
Oui, au oui.
même titre. On l'oublie souvent, je vous dirais, mais c'est vraiment comme ça que les praticiens le voient là, en général. Mais ça reste quand même... hier, j'ai une de mes collègues qui disait... vous savez, nos familles, nos ancêtres, si on veut, pratiquaient ces danses-là puis cette musique-là, puis ils avaient du plaisir, puis c'était comme ça qu'ils se divertissaient puis qu'ils s'amusaient. Donc, pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose?
C'est ça. Le plaisir doit être toujours présent. Le plaisir doit être toujours présent. La veillée, et comme vous l'avez bien décrit d'ailleurs, c'est un rassemblement festif, participatif, organisé autour de la danse traditionnelle québécoise. Et puis, comme tout le monde le sait, hein, comme vous l'avez dit, la danse, c'est du sport. En même temps, c'est de la poésie, c'est la poésie du corps.
Absolument. Bon, oui, absolument, parce qu'il y a les gestes, c'est toujours en grand groupe, hein. On finit toujours par avoir, au moins, en tout cas dans les veillées que j'ai vues cette semaine, au moins une cinquantaine de danseurs, là, en groupe de 8, donc, disons 48 danseurs.
Oui.
Puis de voir tout ce mouvement-là, des fois vraiment en harmonie, des fois moins.
Oui.
De voir tout ce mouvement-là, il y a quelque chose d'effectivement très, très poétique. Il y a une sorte de transe aussi quand on danse, hein, quand on swing avec les partenaires, quand on tourne. Puis c'est un rythme qui est relativement répétitif, hein, la musique traditionnelle pour la danse. Donc, il y a une espèce d'état de transe, là, sans exagérer, mais il y a un état qui est franchement intéressant, puis comment dire... Ça éloigne les soucis aussi. Il y a un peu ce côté-là. On se laisse vraiment embarquer par la musique. Puis
oui.
C'est franchement intéressant. Puis en plus, dans la veillée de Tissé Serré, là, qui est à 19h ce soir, moi, je suis à Québec, mais je me suis déplacé. Je suis à Laval en ce moment pour aller assister à cette veillée-là.
Oui.
C'est une troupe de danse qui s'appelle Tissé Serré qui organise la veillée. Donc, il y a les danseurs de la troupe qui font davantage, je vous dirais, du spectacle puis de la formation.
Oui.
Qui vont être là aussi pour accompagner les gens, pour leur montrer un peu les pas, puis pour danser avec eux. Donc, on s'assure d'avoir un bon bassin de danseurs expérimentés qui vont vraiment nous entraîner. Ça, c'est particulièrement intéressant que les troupes de danse traditionnelles fassent des veillées de plus en plus, je vous dirais, là, pour vraiment faire participer les gens. Parce que c'est ça qui est intéressant de la veillée de danse, c'est le spectateur devient acteur. Donc, il n'est pas passif, il est vraiment actif, puis on sollicite vraiment sa participation. Donc ça devient franchement intéressant d'y assister, puis comme on dit souvent, d'entrer dans la danse.
Oui, c'est pas une question de dire « je sais pas danser, non, je vais pas sur la piste ». Non, 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 les gens, tout le monde est là pour s'amuser. Moi, j'aimerais bien retrouver un groupe comme ça à Montréal pour de temps en temps, comme vous le dites, les gens, les coachs qui pour savoir, la danse de groupe, je ne suis pas tellement habitué à ça. C'est... J'aimerais bien découvrir un groupe comme ça à Montréal, comme j'habite Montréal, pour essayer de temps en temps, comme vous dites qu'il y en a durant tout au courant de toute l'année.
Oui, ben, j'invite les auditeurs aussi là, du côté de Montréal, vraiment l'organisme Espace Trad, qui organise les veillées du plateau depuis... Ils ont fêté leur 40e anniversaire.
40e anniversaire, Espace Trad.
Les veillées du plateau cette année, ouais. Oui. Puis c'est à tous les mois là. Si tout se passe bien, en septembre, ça devrait reprendre. Puis c'est une veillée par mois. Puis c'est franchement très festif. Puis ce qui est intéressant, c'est que les calleurs, calleuses, les musiciens, musiciennes changent d'une veillée à l'autre. Donc on voit des calleurs dont on aime davantage le style, où ça nous permet de découvrir différents répertoires aussi.
Oui.
Oui. C'est vraiment ouvert à tous. C'est très populaire, donc je vous suggère fortement. Mm. Puis sinon, ben vous pouvez aller voir notre site là, veillée au pluriel -danse.québec.
Oui.
C'est le site du réseau des veillées de danse, qui est un peu notre programme qui chapeaute les veillées de la fête nationale et d'autres événements.
Oui, oui.
Ben, tous les endroits où danser au Québec. Toutes les veillées de danse, en fait, traditionnelles, vont se retrouver sur ce site-là. Pour l'instant, je vous dirais qu'il y a une petite pause qui a été prise avec la pandémie, mais au fur et à mesure qu'on confirmera les reprises, toute l'information va se trouver là. Sinon, pour les veillées de la fête nationale, tout est là aussi, là, en début de page, là. C'est assez facile à trouver.
Génial. Le maudit virus, voilà, il nous a collé un peu la paix, là. On essaie de retrouver un semblant de normalité.
Ben, en tout cas, la veillée de danse, je vous dirais que c'est un bon endroit pour oublier tout cet état-là, là, je vous le garantis.
OK.
Puis, alors... puis c'est un danseur très néophyte qui vous dit ça.
Oui. Voilà. Ah ouais, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de vous mettre.
on peut pas passer à côté. Ouais.
Non. Moi, j'aime danser en général, donc mais la danse de groupe. Pour les dernières 40 secondes qui nous restent, quel est le message que vous avez à lancer à ceux qui aimeraient se lancer dans ça aussi, comme moi, par exemple, en dehors de l'espace trad du plateau? Ceux qui sont en région, c'est beaucoup plus facile, non?
En région, ben ça dépend. Ça dépend s'il y a des veillées de danse, mais je vous dirais, écoutez de la musique traditionnelle. Déjà, ça va vous donner une bonne idée. C'est une bonne porte d'entrée.
Oui.
N'hésitez pas à aller danser. Là, les veillées de la fête nationale, c'est la première fois que ça se produit. On espère que ça reviendra l'an prochain.
On espère. J'espère vous réentendre, en tout cas.
Il reste 9 veillées d'ici demain. Donc, vous allez sûrement pouvoir en trouver une dans votre région. Vous allez pouvoir tenter l'expérience une première fois.
Le gros programme. Merci beaucoup, Philippe Dubois, chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Allez, bonne veillée à vous et bon show, bon spectacle. Et puis, au plaisir de vous réentendre. Et puis, je serais bien curieux d'avoir le communiqué final pour en parler. Comment est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça s'est passé? Surtout que c'est une première édition. Et profiter de l'antenne aussi. On dit merci au Conseil québécois du patrimoine.
Merci beaucoup, Fulgence. Je vous recontacterai certainement.
Ouais, et puis tous les partenaires qui sont en arrière aussi. Voilà. Merci à vous et puis bonne soirée ce soir.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Merci, au revoir. Au revoir.
Quelle que soit la raison de ta venue ici, où que soit ta maison, où que tu fasses ta vie,
crois ce que tu veux, crois en qui tu veux, crois si tu le veux, aime et sois heureux, quel que soit ton sang. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta race, où que tu sois dans cet espace.
Mon survécu, ami ou inconnu, vivra ou disparu, libre ou détenu.
Si tu portes des chaînes aux barreaux de ta prison, perdu ce que tu aimes, il te reste cette chanson.
On est tous ensemble, on est tous ensemble, tous ensemble, ensemble. On est tous ensemble, on est tous ensemble, tous ensemble.
Refrain sur ta route, le nom de ton quartier.
Quel que soit ton voyage, nomade ou sédentaire, les rides sur ton visage, le lit de tes rivières.
On est tous ensemble, on est tous ensemble, tous ensemble.
Ensemble,
on est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Jamil et ses amis, tous ensemble. Ça tombe bien, non? Effectivement, c'est... voilà, on est tous ensemble avec des sujets dont... Le sujet dont on vient de parler, la danse en groupe, voilà. C'est la Saint-Jean. Bon, non, la fête nationale, pas la Saint-Jean, c'est la fête nationale qui arrive bientôt, dont on est tous ensemble, voilà. Alors, je vais parler un peu de nouveautés littéraires, un roman sur la vie de Mary Reynolds, compagne de Marcel Duchamp. C'est en librairie depuis ce matin, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, 21 juin 2022, voilà. 160 pages, c'est pas une brique, hein. L'éditeur, c'est Finitude, c'est la maison d'édition. À travers son roman, je ne déserterai pas ma vie. Et voilà, c'est le titre du roman. Sébastien Ronger, c'est lui l'auteur, qui raconte la vie intense, mais trop peu connue de Mary Reynolds, et redonne à cette femme de l'ombre toute la lumière qu'elle mérite. Ses amis l'appelaient Beckett, Brancucci, ou bien même Man Ray ou Gertrude Stein, la belle américaine formée à Paris, un couple libre et moderne avec l'artiste Marcel Duchamp. Quand la Seconde Guerre mondiale arrive, Marcel se réfugie aux États-Unis. Mary, elle, ne déserte pas. Ouais. Commence alors le temps de la résistance. C'est avec beaucoup d'empathie que Sébastien Ronger rend compte de son parcours. Lui-même spécialiste de Duchamp, il s'étonnait que personne ne se soit encore emparé de ce personnage étonnant, romanesque. Voilà qui est fait. Son existence parle pour elle. Mary Reynolds est une véritable héroïne de roman. Voilà. Ça, c'est fou, quoi. Donc, un petit extrait. Non. Peu après la Première Guerre mondiale, dans les cafés de Montparnasse, une belle américaine et un jeune artiste français forment un couple libre, moderne. Ouais, il s'appelle Mary Roland et lui... Marcel Duchamp, la petite maison du 14e arrondissement devient vite le point de ralliement de tout ce que Paris compte de talent. Ah oui, Cocteau, Beckett, Dali, Brancucci. Et puis, quand revient la guerre, Marcel se réfugie aux États-Unis. Mary, elle, ne déserte pas. Elle est devenue partie parisienne et elle le restera à tout prix. Elle est prête pour cela, à tout risquer. Même sa vie commence alors le temps de la résistance. Voilà. Et qui est cet auteur, Sébastien Ronger, qui vit et travaille en région parisienne? Il aime regarder la mer et écrit des romans ou des essais qui croisent des formes artistiques. Donc ce roman est en librairie depuis ce matin. Aujourd'hui, voilà, 21 juin 2021. J'ai encore quelques minutes. Je vais parler d'une autre nouveauté rapidement. J'avais même un long extrait de ce livre-là aussi. Voilà, mais je préfère laisser ça pour l'instant comme ça. Qu'est-ce qui suit par la suite? Qu'est-ce que j'ai pu découvrir encore? S'écarter et savourer. Éditeur L'Aube. En librairie depuis aujourd'hui, c'est 128 pages. Christophe André. Prenez le temps d'un moment de réflexion avec Christophe André. Le 1 et L'Aube. Voilà. Cet ouvrage rassemble les différentes contributions de Christophe André à l'hebdo, le 1, depuis 2018, qui évoque notre incapacité à la patience, notre difficulté à supporter l'incertitude, ce qu'il appelle notre inertie climatique. Voilà, notre inertie climatique, c'est très poétique ça. Ou encore notre rapport au changement. Chaque fois, le psychiatre fait mouche et nous aide à prendre un peu de recul sur nos attitudes individuelles et collectives. Passionnant. Ouais. Christophe André est psychiatre et psychothérapeute. Il est l'auteur de nombreux ouvrages à grand succès. Récemment, Le temps de méditer, l'iconoclaste. Ah, il est bien connu ce nom, quand je l'ai vu tout de suite, j'ai dit, il faut que j'en parle. Christophe André, bien sûr, ça, c'est son tout nouveau, ça. C'est en librairie depuis ce matin. Oui, 21 juin 2022, 128 pages. C'est pas beaucoup, hein. J'ai encore du temps. Non, presque fini, hein, sincèrement. Je voulais parler d'un autre livre encore, mais je reviens là-dessus la semaine prochaine. Et puis, je vais vous parler aussi. Pas la semaine prochaine, on n'est plus là, c'est la fin de l'émission. Demain, je vais revenir là-dessus. Voilà, on sera là demain. La Fondation Santé Urbaine. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et puis, je dis merci à notre invité qui est venu nous parler des veillées de danse de la fête nationale. Ça continue jusqu'à demain. Philippe Dubois, qui est chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Alors, ceux qui aiment la danse, ceux qui aiment aller se trémousser un peu avec d'autres personnes en société, n'hésitez pas, ça continue jusqu'à ce demain. C'est dans toutes les régions de Québec. Tapez sur, allez-y sur le site Patrimoine Vivant. Voilà, vous allez trouver tout ça là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vos minutes. Et puis, n'hésitez pas, profitez de la vie. Hein. Voilà, il faut savoir toujours mordre dans le fruit doré que le monde nous donne, que la vie nous donne. Nicolas, tu souris. Et sur ce, je vous dis merci, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis ciao.